qu'en 1929, Virginia Woolf déplorait l'inévitable polyphonie des mots dans une émission de radio qu'elle intitulait Words Fail Me. Elle s'exprimait ainsi: Words, English words, they are full of echoes, memories, associations. They have been out and about on people's lips, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. They are stored with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The Letter of Day de Graham Swift entre en résonance avec les propos de Virginia Woolf, puisqu'en effet, le roman s'ouvre sur un mariage de mots éminemment évocateur de l'individu de Mrs. Dalloway. Et il s'avère que ce premier indice intertextuel n'est pas un simple hommage inerte au célèbre écrivain. Ainsi, dans un premier temps, il s'agira de montrer comment la citation initiale s'inscrit dans la lignée d'un héritage littéraire et est à l'origine d'un protocole de lecture moderniste. Ensuite, une deuxième partie portera sur la relation dialogique entre le texte citant et le texte cité et sur la réévaluation des modes de représentation de la réalité et des codes sociaux qui en découlent. Enfin, il s'agira d'étudier comment l'intertextualité guide et oriente la lecture vers l'avènement de l'épiphanie finale dans le roman. Et ainsi, il sera possible de conclure comment l'intertextualité permet à Graham Swift de revisiter les codes du modernisme et de faire entendre sa propre voix spécifiquement contemporaine. Donc, The Light of Day s'ouvre sur la remarque que le héros et le narrateur du roman, George Webb, is getting the flies. Cette observation affleure dans le roman comme une trace vestigielle, pour reprendre l'expression de Catherine Bernard, de la célèbre phrase initiale de Mrs. Dalloway qui stipule que l'héroïne éponyme would buy the flowers herself. Dans les deux romans, la phrase a une valeur performative qui donne son impulsion de départ à la diégèse. En effet, dès qu'elle est exprimée, les deux personnages se trouvent engagés dans la réalisation du procès énoncé et sont plongés dans le flot de leur déambulation dans l'autre. Tous ces échos et points communs convergent comme un faisceau d'indices pour indiquer une volonté de citer. Mais alors qu'avec la citation classique, Tiphaine Samoyo indique que l'hétérogénéité est nettement visible entre texte cité et texte citant, dans The Light of Day, la citation est totalement intégrée dans le texte du roman qui demeure homogène. If Rita's watching, it's just my guess. If she's gone to my office window to look out, she'll have seen me cross over and confirm to herself he's getting the flowers. Ici, la citation serait plutôt de l'ordre de l'allusion, qu'Annie Bouillaguet définit comme un emprunt non littéral, non explicite. D'autre part, la situation d'énonciation hypothétique du propos rapporté, it is just my guess, instaure une polyphonie ambiguë dans le roman. Il y a bien sûr la voix de Georges, le narrateur homodiégétique, qui rapporte celle de Rita et aussi déjà l'écho des voix du texte cité. Ainsi, dès les premières pages du roman, le lecteur se doit d'être attentif à un réseau de citations et de résonances qui sont intrinsèques à la composition du roman, puisque l'intertexte fait partie intégrante de sa composition et de son écriture. Il nous indique un protocole de lecture qui se confirme par l'adoption de topoi de la littérature moderniste, comme le choix par exemple d'une unité de temps d'une journée, comme dans Mrs. Dalloway et Ulysses de James Joyce. The Latter Day retrace une journée spéciale, George a une mission, celle de déposer des fleurs sur la tombe de Bob, le jour anniversaire de son assassinat par sa femme, Sarah, dont George était pris et à qui il va ensuite rendre visite en prison. George passe une grande partie de la narration en route, dans les rues de Londres, renouant ainsi avec la tradition moderniste du personnage flâneur. George est amené à réfléchir, à rêver et à se souvenir d'événements particuliers qui sont autant de tableaux à rajouter à la mosaïque de la narration. C'est un des topos de la littérature moderniste que David Lodge exprime ainsi. The structure of the external objective events essential to narrative art in traditional poetics is diminished in scope and scale, or represents selectively and obliquely, in order to make room for introspection, analysis, reflection, and memory. Ainsi, la diégèse de The Light of Day progresse au gré d'associations d'idées relatées sous forme de monologues intérieurs dans la lignée du stream of consciousness wolfien. Mais il s'en différencie dans la mesure où c'est principalement le langage qui est générateur du texte. Graham Swift installe un dispositif intratextuel en introduisant des occurrences répétées du même énoncé. Il établit un système de citation réflexive que l'on pourrait appeler autofictionnel. Le texte se cite, mais à chaque nouvelle occurrence, les citations sont complétées et apportent de nouvelles informations qui visent à rassembler les fragments épars des micro-histoires et donc à faire progresser la diégèse. Le monde de Mrs. Dalloway est centré sur sa maison, qui est au centre du cœur de Londres, et bien sûr capitale d'un immense empire. Cette organisation concentrique signale la confiance en un centre totalisant, garant des lois et des valeurs, qui donne sens à la vie quelque part. Cependant, la représentation moderniste normée des codes sociaux est déjà remise en cause dans Mrs. Dalloway par le suicide de Septimus Smith. Graham Swift radicalise ce questionnement et choisit de situer son roman dans les banlieues chic du sud de Londres, un lieu ex-centré, plus en adéquation avec l'épistémé post-moderne. De plus, la maison de Beauchamp Close, anciennement au centre de la vie de Sarah, n'existe plus en tant que telle. George ne peut plus y entrer, il ne peut plus que l'observer de l'extérieur. Donc ce centre moderniste semble inaccessible dans un roman postmoderniste. Cependant, la périphérie privilégiée par Graham Swift ne peut se situer que par rapport à un centre, qui ne peut donc pas être totalement. Similairement, Graham Swift ne nie pas l'esthétique moderniste, mais reste en lien avec elle et radicalise ses codes, on pourrait dire de l'intérieur. Inversement aux maisons, c'est dans Mrs. Dalloway que la belle voiture qui crée l'événement ne peut s'admirer que de l'extérieur. Par contre, dans le roman de Graham Swift, le héros entre dans la voiture, il se saisit de ce symbole mobile de la modernité, le connaît de l'intérieur et l'inscrit dans un voyage d'exploration éminemment contemporain. Il passe plus de la moitié des chapitres du roman dans cette voiture, je crois que c'est 37 sur 67. Cet acte est symbolique de son rôle de narrateur homodiégétique dans le cadre du protocole de lecture moderniste. Ainsi, la citation implicite du début du roman a une fonction métonymique. Comme l'exprime Daniel Bilou, l'intertexte, c'est le tout évoqué. recyclé et représenté par la partie. Elle révèle un protocole de lecture moderniste. À l'issue de cette première partie, il apparaît clairement que l'épistémique postmoderne de Graham Swift est définie par rapport à l'esthétique moderniste, non pas en la niant ou en l'imitant, mais en étant en relation avec elle. Le protocole de lecture induit une relation tout en écho et résonance entre le texte cité et le texte citant. George attire l'attention du lecteur sur le fait que les mots dont il dispose en tant que narrateur ont déjà été utilisés et répertoriés dans les dictionnaires. Michael Bakhtin théorise ce constat. Aucun membre de la communauté verbale ne trouve jamais des mots de la langue qui soient neutres, exempts des aspirations et des évaluations d'autrui, inhabités par la voix d'autrui. Sa propre intention trouve un mot déjà habité. C'est ainsi qu'il définit le principe qu'il nomme dialogique. Dans The Light of Day, George s'interroge sur le concept de civilisation à 5 reprises. Ce concept a déjà un vécu littéraire immense, et en particulier dans Mrs. Dalloway, où il est l'objet d'une réflexion dans 5 passages aussi. Dans le roman de Virginia Woolf, Londres est associée au succès d'une civilisation impériale triomphante. Après son séjour en Inde, Peter Wolfe se réjouit de pouvoir contempler Londres, qui représente pour lui la civilisation par excellence, comme en témoigne le choix du diptyque The, qui a ici valeur d'absolu. Never had he seen London look so enchanting. The softness of the distances, the richness, the greenness, the civilization, he thought, after India, strolling across the grass. Cependant, l'image de la civilisation britannique est de plus en plus éprouvée au fil du roman de Virginia Woolf. Enfin, il apparaît clairement que Peter Rouge se trompe cruellement lorsqu'il s'extasie à 2 reprises devant l'ambulance qu'il décrit comme « one of the triumphs of civilization », mais qui en fait transporte le corps moribond de Septim Smith qui vient de se suicider pour échapper à l'enfer où l'a plongé la Première Guerre mondiale. Dans The Light of Day, une interrogation récurrente comme le roman sous forme d'une question répétée 5 fois. What is civilization for? La première occurrence du questionnement sur le bien fondé de la civilisation s'applique à l'élégance élitiste des banlieues chic de Londres. And don't mock it anyway, this Roman garden land, this never-never land, where nothing much is ever meant to happen. These Wimbledons and Chislehursts, what else is civilization for? En fait, derrière les façades raffinées, ce sont finalement l'inertie, l'apathie et l'ennui qui règnent en maître inexorable. Donc Graham Swift n'est pas en rupture avec le fait que la fiction représente une certaine réalité sociale, mais il semble questionner plutôt quelle réalité doit être représentée. Les 5 questions de The Light of Day entrent en résonance avec les 5 assertions de Mrs. Dalloway. Dans The Light of Day, il s'agit de questions rhétoriques auxquelles nulle réponse ne peut être envisagée, tant la charge ironique et désespérée est grande. Et dans Mrs. Dalloway, les assertions évoluent pour ressembler de plus en plus à un questionnement. Donc ce dialogue intertextuel donne de l'ampleur à la réflexion de Graham Swift. Il enrichit de tout un vécu, et particulièrement du témoignage spectral de Septim Smith, qui est rappelé de l'au-delà de la grande bibliothèque, on pourrait dire, pour apporter son témoignage dans un roman de Graham Swift. Et comme l'indique Michael Riefater, cet intertexte oriente la lecture du texte, en gouverne l'interprétation interprétation et le contraire de la lecture linéaire. Donc dans Mrs. Dalloway et plus radicalement et plus explicitement dans The Light of Day, les valeurs de la bourgeoisie sont développées jusqu'à un point d'absurde qui les rend désuètes et obsolètes. Leur destruction iconoclaste paraît logique, voire même inévitable, et s'effectue dans les deux textes par un acte violent. Ainsi, le motif de l'organisation d'un dîner dans The Light of Day évoque la fête qui occupe l'essentiel de la journée de Mrs. Dalloway. Mais dans les deux textes, le faste et le contentement ne sont que superficiels. Certes, Mrs. Dalloway has the making of a perfect hostess, mais le compliment la fait pleurer. Et sa fête sera empreinte d'amertume puisque la mort s'y invite. Author Clarissa, in the middle of my party, here's death, she thought. Et la phrase The this young man who had killed himself est répétée 6 fois dans le passage. Sarah, quant à elle, prend des cours de cuisine pour perfectionner ses qualités d'hôtesse. Et c'est pourtant avec le même couteau qu'elle utilise pour préparer un repas de gastronome pour son mari que finalement elle l'assassine. Ainsi, l'acte violent se présente sous la forme d'un suicide dans Mrs. Dalloway et un meurtre dans The Light of Day, et c'est le pivot qui fait basculer la narration dans un face-à-face plus authentique avec la quête de sens des héros homodiégétiques. À l'issue de cette deuxième partie, il apparaît que les thèmes modernistes entrent en résonance avec ceux de The Light of Day, et ainsi éclaire et ajoute une force évocatrice au propos de Bram Swift. La relation entre texte citant et texte cité est ici un rapport de mise en miroir, de texte miroir d'encre, pour reprendre l'expression de Catherine Bernard. Finalement, George est le seul personnage encore opérationnel à ce stade de la narration, donc puisque les autres sont morts, en prison ou en exil. La narration de George est intimement liée à ses trajets dans Londres, qui, comme ceux de Mrs. Dalloway, sont à chaque fois des allers-retours. Les trajets inscrivent une nouvelle visite sur des lieux chargés d'histoire personnelle, d'autant que la journée du 20 novembre 1997 est un pèlerinage qui amène George sur la tombe de Bob et sur des lieux évocateurs du passé. Il s'agit donc d'un retour à double titre, un aller-retour au temps de la vieillesse et un retour sur des lieux chargés de mémoire. Il y a ici parfaite adéquation entre l'écriture intertextuelle du texte qui convoque la mémoire littéraire et la diégèse qui retrace la longue anamnèse de Georges. Georges est l'héritier d'une histoire tourmentée et ressent l'urgence d'apporter du sens et de se réconcilier avec les événements traumatisants qui ont débouché sur le meurtre de Bob. Pour cela, il raconte avec précision sa journée. Every hour, every minute, every detail, every moment, every clue, reliving it. Ainsi, les trajets jouent deux rôles dans la diégèse. Ils permettent de revivre le passé, jusqu'à pouvoir en exorciser l'horreur. Et d'autre part, ils amènent George, comme Mrs. Dalloway d'ailleurs, à explorer des territoires intérieurs mystérieux. Le rythme de la narration est lent, fait d'attente, d'introspection et de silence. Les trajets de George deviennent un voyage intérieur initiatique. Être en route est symbolique de transformation intérieure, de cheminement vers la paix et la réconciliation. C'est ainsi que le message de The Light of Day peut finalement être porteur d'espoir au-delà des déceptions et des échecs. Un nouvel intertexte tiré de Mrs. Dalloway intervient dans la résolution de la narration. Au cours de ses déambulations dans Londres pour acheter les fleurs, Mrs. Dalloway remarque un livre ouvert dans la vitrine d'une librairie et elle lit ces vers de Shakespeare. Feel no more the heat of the sun, know the furious winter's rages. L'intertexte shakespearien intervient à des moments difficiles dans Mrs. Dalloway, comme une incantation au pouvoir assénérant qui commande explicitement de ne pas avoir peur. Quiet descended on her, calm, consent. So on a summer's day waves collect, overbalance and fall, collect and fall, that is all. Fear no more, says the heart, fear no more, says the heart, committing its burden to some sea, which sighs collectively for all sorrows, and renews, begins, collects, lets fall. L'influence bienfaisante de l'intertexte wolfien affleure progressivement dans la prose de Graham Swift. Et finalement, le titre du roman trouve tout son sens dans la prolepse finale, lorsque George imagine Sarah sortant de prison. Il s'agit de la maison d'arrêt où elle purge sa peine, mais aussi symboliquement de la prison intime où l'enferme son chagrin et son remords. Her private prison, her private hell. Elle pourra alors enfin entrer dans la lumière du jour que l'intertexte wolfien engage à ne plus craindre. But tomorrow will be like today, brilliant, blue and still. I want it to be like today, when I'm there, when I'm waiting, heart thudding, my breath billowing before my eyes, when she comes back, steps out at last into the clear light of day. Le parcours décrit se termine par une épiphanie, un terme cher à Joyce, ou « a moment », pour reprendre un terme wolfien. À la fin de Mrs. Dalloway, l'héroïne quitte aussi quatre murs. Mais c'est pour entrer dans un autre lieu clos, et c'est pour revenir dans ce monde, puisqu'elle revient dans la pièce où a lieu sa fête. Il ne semble pas y avoir d'ouverture vers un monde meilleur. Il ne semble pas y avoir d'épiphanie. Dans les deux romans, la fin est ouverte. Mais dans Mrs. Dalloway, il semble qu'il y ait plutôt l'émergence d'une certaine résignation qu'une libération. Alan Wilde décrit le monde moderniste comme « a world in need of mending », tandis que le monde postmoderniste serait « beyond repair ». Cette troisième partie confirme que le postmodernisme de Graham Swift n'est pas en rupture ou en opposition avec le modernisme de Virginia Woolf, en tout cas. Il semblerait même inverser la classification d'Alan Wilde. Donc, en conclusion, lors de sa conférence à la BBC en 1929, Virginia Woolf se plaignait d'être trahie par les mots porteurs d'un héritage trop lourd. Graham Swift transforme cette difficulté en force et choisit d'affirmer l'ancrage intertextuel de The Light of Day par une citation initiale implicite à valeur métonymique. Il met ainsi en place les codes de référence du roman et établit un protocole de lecture moderniste. Il n'y a donc ni imitation de l'esthétique moderniste, ni rupture avec elle. S'il y a subversion, ou plutôt radicalisation de ces codes, l'opération s'effectue de l'intérieur en lien avec cet esthétisme. Ce parti pris littéraire est symbolisé dans les romans par le choix des banlieues chics du sud de Londres, lieu excentré en accord avec l'épistémie postmoderne, mais qui ne saurait se situer sans un lien avec le centre, plus typiquement totalisant et moderniste. Et celui de la voiture, emblème du progrès moderne, dont George se situe, et qui est pour l'essentiel du roman en route. Hein, donc il ne s'agit plus d'être dans un centre statique, au contraire, il s'agit d'être toujours en mouvement. L'intertextualité est partie intégrante d'une stratégie de création littéraire qui permet à Graham Swift de concilier les paradoxes et les contradictions. Il fait des répétitions une formidable force d'innovation, crée un cadre narratif qui réunit une mosaïque de micro-histoires, et privilégier la pluralité et la discontinuité temporelle tout en restant totalement cohérent. Il convoque une polyphonie intertextuelle dans une œuvre qui, par ailleurs, privilégie le silence et l'introspection. Et finalement, il conclut à la faillite des modes de représentation de la réalité tout en continuant à habiter le monde et en être comptable. Enfin, l'épiphanie finale laisse entrevoir l'espoir d'une vision réconciliée avec le sens de notre civilisation qui est tellement mis en cause dans le roman. Et c'est en ce sens que Graham Swift fait entendre, à mon sens, sa propre voix postmoderne. Je vous remercie.